VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 14 janvier 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
La SADC préconise le recomptage des voix de la présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo.
Au Nigeria, le président de la Cour suprême doit comparaître ce matin devant le tribunal du code de conduite pour corruption.
Au Soudan, tirs de gaz lacrymogènes sur les manifestants à Khartoum et au Darfour.
Ici à Washington, le président Donald Trump rejette des informations du New York Times selon lesquelles il serait redevable à la Russie et à son homologue Vladimir Poutine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, notre journal.
La communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, s'est prononcée en faveur d'un recomptage des voix de la présidentielle controversée du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo pour, dit-elle, rassurer les vainqueurs et les perdants. Le président zambien Edgar Lungu, président en exercice de la SADC, a par ailleurs appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Timothée Donangmai a recueilli à ce propos la réaction de Danny Aïda, représentant du National Democratic Institute à Kinshasa.
Il y a eu beaucoup de concertations entre les chefs d'État de SDC entre-temps à propos de la crise et je crois même qu'ils ont retardé la rencontre du Conseil de sécurité sur le Congo. Alors cette préconisation faite par le président de SDC démontre que la SADC apporte une attention particulière à cette crise et vu que le contentieux n'est pas encore épuisé, je pense que c'est une proposition qui peut être considérée par les parties prenantes du processus électoral en RDC actuellement.
Quel est le poids de la SADC dans ce dossier?
La RDC fait partie de la SADC. La SADC a des contacts assez bons avec les différents protagonistes de la crise congolaise, qu'il s'agisse de l'opposition ou du gouvernement du président Kabila. Donc je pense que la façon assez sage avec laquelle la SADC a joué jusqu'à aujourd'hui peut faire attendre à ce que cette proposition puisse être prise en compte. Si elle n'est pas acceptée, au moins qu'elle soit traitée avec une certaine déférence à la différence de certaines positions étrangères qui ont été considérées par le gouvernement congolais à ce moment comme une ingérence.
Danny Aïda, représentant du National Democratic Institute à Kinshasa.
Et ceci de notre correspondant à Lubumbashi et Narval Mabila qui signale que la police a dispersé avec des grenades lacrymogènes la rencontre de l'Union des jeunes Katangais UJK qui voulait tenir hier après-midi un point de presse pour dénoncer le comportement des militants de l'UDPS. Selon l'inspecteur provincial de la police, joint par notre correspondant, ces jeunes portaient des bandeaux rouges, signe, selon lui, de rébellion. Il y a eu 11 blessés et 22 personnes arrêtées, selon l'UJK. Un correspondant de Radio Okapi a été blessé dans la mêlée. On a arraché son matériel à un autre.
Au Nigeria, le président de la Cour suprême doit comparaître ce matin devant le tribunal du code de conduite pour corruption. Walter Samuel Onongen a été inculpé samedi pour ne pas avoir déclaré tous ses avoirs bancaires. D'Abuja, la correspondance de Gilbert Tamba.
Le gouvernement fédéral accuse le président de la Cour suprême de n'avoir pas déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars et en livres sterling depuis sa nomination à ce poste en 2015. Selon la loi nigériane, tout responsable officiel de haut niveau doit déclarer ses biens et surtout, il est interdit de détenir des comptes en devises lorsqu'on exerce une haute fonction. Walter Onogen sera donc entendu ce matin devant une juridiction d'exception, le tribunal de code de conduite d'Abuja. Le président de la Cour suprême n'est pas le premier à être accusé de corruption au sein de cette haute institution de justice du pays. En octobre 2016, la Commission des crimes économiques et financiers avait ordonné un raid de la police sur les domiciles de plusieurs juges fédéraux. Deux juges de la Cour suprême étaient concernés. Au final, ils ont été blanchis d'accusations de corruption. Mais cette dernière convocation à quelques semaines des élections générales et présidentielles suscite des réactions au sein de l'opinion et pourrait alourdir le climat déjà tendu entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif sortant. La constitution du Nigeria prévoit que toute accusation de corruption contre un juge fédéral doit avant tout être présentée devant la Commission nationale judiciaire qui, en principe, décide des poursuites. Quelques 150 avocats se sont portés volontaires pour défendre le président de la plus haute institution de justice du pays, Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Au Soudan, les organisateurs des manifestations contre la vie chère ont décidé de passer à la vitesse supérieure en appelant à une semaine de soulèvement. Ils continuent de réclamer le départ du président Omar el-Bashir au pouvoir depuis près de 3 décennies. Précision de Timothée Donangmaï.
Ils étaient des centaines à manifester dimanche dans les rues de Khartoum, la capitale soudanaise, avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes. Pour la première fois, le mouvement de protestation s'est étendu à la région du Darfour dans l'ouest du pays. Les autorités soudanaises ont revu à la hausse le bilan des manifestations, faisant état de 24 morts, alors que l'ONG Human Rights Watch parle de 40 morts. Les manifestants prennent régulièrement pour cible les bureaux du parti au pouvoir qu'ils incendient. Ils exigent la démission du président Omar el-Bashir, au pouvoir depuis 29 ans. À l'origine de leur colère, la flambée des prix des denrées alimentaires du fait d'un taux d'inflation de 60% et ce après la suppression en 2018 des subventions gouvernementales. L'état de l'économie soudanaise n'a cessé de se détériorer depuis que l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011 prive Khartoum de la majeure partie de ses revenus pétroliers.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président américain Donald Trump a mis en garde la Turquie contre une éventuelle catastrophe économique si elle venait à attaquer les Kurdes après le retrait des troupes américaines de Syrie. Simultanément, le président Trump a souligné dans un tweet dimanche que Washington ne voulait pas non plus que ces derniers provoquent Ankara. Le président Trump a par ailleurs écrit, sans autre précision, « créer une zone de sécurité de 32 kilomètres ». Pour rappel, la Turquie qualifie de terroristes les alliés kurdes des États-Unis en Syrie, la milice YPG des unités de protection du peuple, épine dorsale sur le terrain de la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique.
Le président Trump a par ailleurs rejeté les articles parus dans la presse américaine selon lesquels il serait redevable à Moscou et à son homologue russe Vladimir Poutine et dissimulerait les détails de leurs 5 entretiens privés, y compris leur sommet de juillet dernier à Helsinki. À une question directe d'une présentatrice de Fox News qui lui a demandé s'il travaillait maintenant ou a jamais travaillé pour le compte de la Russie, M. Trump a répondu que c'était la chose la plus insultante qu'on lui ait jamais demandée. Il a ajouté avoir été vis-à-vis de la Russie plus dur que ses 3 ou 4 récents prédécesseurs. Il réagissait à un article du New York Times selon lequel le FBI avait ouvert une enquête sur ses relations avec la Russie après le limogeage de James Comey, l'ancien directeur du FBI chargé alors de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Il a qualifié le quotidien new-yorkais de vrai désastre.
Toujours à Washington, l'un des plus grands alliés du président Trump au Sénat, le républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, lui a recommandé hier de rouvrir au moins temporairement le gouvernement fédéral et de négocier avec les démocrates sa requête sur le financement de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Monsieur Graham a dit hier à Fox News qu'il est prêt à appuyer la déclaration d'une urgence nationale par le président américain après avoir donné une autre chance à la négociation. La fermeture partielle du gouvernement qui affecte quelques 800 000 employés entre aujourd'hui dans son 24e jour.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo poursuit ce lundi sa visite à Riyad avec la volonté de disposer de tous les faits dans l'affaire du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont il entend que tous les responsables rendent des comptes. Le chef de la diplomatie américaine se trouve à une étape sensible de sa tournée au Moyen-Orient pour sa 2e visite en Arabie Saoudite depuis que le journaliste et critique du pouvoir a été tué au consulat saoudien à Istanbul début octobre 2018, suscitant une vague d'indignation internationale.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En 2018, le Maroc a accordé un total de 26 permis d'exploitation à titre exceptionnel à des jeunes qui se sont regroupés dans des coopératives avec le soutien des autorités. Selon le ministère marocain de l'énergie et des mines, des projets d'industrie et d'agriculture doivent être également achevés en 2020 pour un investissement de près de 82 millions d'euros. Ce mois-ci, l'Arabie Saoudite va réduire ses exportations de pétrole de 10% par rapport à novembre afin de stabiliser les prix. Le premier exportateur mondial de pétrole réduira ses exportations de 800 000 barils par jour afin de produire 7,2 millions de barils en janvier contre 8 millions de barils en novembre. Une réduction supplémentaire de 100 000 barils par jour est prévue en février. Terminons avec General Motors qui envisage cette année de commercialiser des voitures à bas prix pour les pays émergents et transformer sa marque Cadillac en constructeur de véhicules électriques haut de gamme pour rivaliser avec Tesla. Ces voitures, la plupart sous la marque Chevrolet, seront notamment vendues en Chine, en Inde, au Mexique et en Amérique du Sud, particulièrement au Brésil, région où elles seront également produites. Elles seront aussi exportées dans d'autres pays émergents, mais la société n'exclut pas d'en vendre en Europe et aux États-Unis.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les Coupes d'Afrique de clubs en Ligue des Champions, le TP Mazembe a bien débuté la phase de poule.
Oui, une bonne victoire à Lubumbashi. Les Kobo ont battu les Égyptiens d'Ismaili 2-0 et partagent la tête du groupe C avec les Algériens de Constantine, 21-0 à Tunis devant le club africain. Deux clubs partagent également la tête du groupe D, les Tanzaniens du Simba et les Égyptiens d'Al Ahly du Caire, vainqueurs respectivement des Algériens de la JS Aoura 3-0 et des Congolais de l'ASV Club 2-0.
Dans le groupe B, le tenant du titre a été tenu en échec à Conakry.
L'aspirant de Tunis a concédé le nul un partout devant les Guinéens de Oroya. Un nul sans conséquence puisque l'autre match du groupe n'a connu ni vainqueur ni vaincu entre les Zimbabwéens de Plateau face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates, score 0-0. Et puis, pas de détails dans la poule A. Le Wydad de Casablanca, facile vainqueur des Ivoiriens de la SEC Mimosa 5-2 à Enugu au Nigeria. L'Obistaz a décroché une précieuse victoire face aux Sud-Africains des Mamelodi Sundowns 2-1.
Place à l'autre Coupe d'Afrique des clubs, Élysée, la Coupe de la Confédération avec le tour de cadrage.
Ce 16e de finale bis qui précède la phase de poule et notons la victoire en déplacement des Marocains d'Assania Agadi 2-0 chez les Éthiopiens de Djima Abba Jaffa. Deux autres victoires à l'extérieur, les Nigériens d'Enugu Rangers 2-1 au Lesotho face au Bantu FC et les Ghanais d'Asanti Kotoko 5-3 chez les Camerounais de Coton Sport de Garoua. Pour le reste, les Libyens d'Al Nasr s'imposent 1-0 devant les Burkinabés du Salit. On note également les succès à domicile des Zambiens de Zesco United 3-1 face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs et des Soudanais d'Al Hilal 3-0 dépend des Rwandais de Mukura.
Pour le reste des résultats, le Raja de Casablanca prend une option sur la qualification.
Oui, le tenant du titre a assuré l'essentiel en ramenant le match nul 1-1 de la Namibie face à African Stars. Même score entre le stade malien et les Angolais de Petro Atletico. De son côté, le CS Fassien s'est contenté d'un 0-0 en Ouganda contre Vipers. En revanche, bonne opération pour les Zambiens de Nkana, vainqueur 3-0 des Ivoiriens de FC San Pedro. Et puis, les Libyens d'Ali Benghazi ont fait l'essentiel 1-0 devant les Algériens de Na Oussende. A noter que le dernier match de ces barrages allait entre Djaraf du Sénégal et le Renaissance de Beckham aura lieu ce lundi.
Football toujours avec la CAN 2019, la date du tirage au sort de la phase finale connue.
Désigné pays hôte de cette CAN, l'Égypte accueillera la compétition du 15 juillet au 13 juillet prochain. Avant cela, le tirage au sort de la phase de groupe aura lieu début avril après la dernière journée des éliminatoires programmée le 22-23 mars, a annoncé un membre de la Fédération égyptienne de football.
On passe au handball avec le mondial masculin qui se déroule actuellement en Allemagne et au Danemark.
Et pas de miracle pour les sélections africaines. Deuxième défaite pour la Tunisie, battue cette fois par le pays hôte Danemark 36-22. Défaite aussi pour l'Égypte devant le Qatar 28-23 et de l'Angola 24-34 contre la Hongrie. Et puis, du basketball pour finir, la NBA avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Philadelphie et New York 108 à 105, Toronto et Washington 140 à 138, Milwaukee et Atlanta 133 à 114, Orlando et Houston 116 à 109, Golden State et Dallas 119 à 114, Denver et Portland 116 à 113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu engage donc une bataille judiciaire pour obtenir le recomptage des voix et l'annulation de l'élection de Félix Tshisekedi, donné gagnant par la CENI à la présidentielle du 30 décembre dernier. De Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire au Congo.
Martin Fayulu est le seul candidat président de la République à avoir introduit son recours auprès de la Cour constitutionnelle. Le candidat de la coalition Lamuka, opposé au résultat de la Commission électorale nationale indépendante, demande à la Cour de recompter les voix.
On demande à la Cour d'exiger à la CENI les recomptages des voix. La CENI va amener ses PV, nous allons amener nos PV pour confrontation.
Et après la publication des résultats des législatives nationales, la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, rafle la mise avec près de 350 sièges sur les 500 que compte l'Assemblée nationale de la RDC. L'opposition, Lamuka et Cap pour les changements réunis, ne se contentant que du reste. Pour Némi Mouilania, directeur de cabinet de Joseph Kabila et coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, une cohabitation s'impose désormais entre Félix Tshisekedi qui a remporté la présidentielle et la coalition de Joseph Kabila majoritaire au Parlement.
L'évidence, c'est que quand on a la majorité parlementaire dans un régime semi-présidentiel, donc parlementaire rationalisé, on forme le gouvernement et donc il y a une cohabitation qui s'impose. La question, c'est celle de savoir si forcément ça serait une cohabitation conflictuelle ou une cohabitation de collaboration. Je pense que le message du peuple congolais appelle plutôt la classe politique à travailler dans la collaboration.
Les personnes interrogées par Top Congo FM saluent la publication à l'heure de ces résultats.
Les résultats reflètent en fait la voix de la population. Nous avons vu comment est-ce que les députés sont descendus sur le terrain pour battre la campagne. Ils ont eu à déployer plusieurs candidats et ils ont vraiment mis les moyens en œuvre.
Nous saluons à juste titre la publication dans le meilleur délai de ce résultat. C'était des élections, en tout cas sanctions, parce qu'il y a des grandes figures de la politique congolaise qui n'ont pas été réélues. Cela montre l'objectivité avec laquelle la population a voté. Ceux qui sont lésés, ils ont l'occasion de pouvoir saisir la justice pour l'étape qui vient juste après la publication.
En ce qui concerne, n'est-ce pas, le résultat des urnes, il n'y a pas eu injustice ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, c'est que Nanga plus publié comme résultat provisoire, c'est exact.
Entre-temps, des appels à l'apaisement se multiplient. Le dernier est celui de la SADC qui appelle à recompter les voix de la présidentielle et encourage toutes les parties prenantes aux élections d'envisager un arrangement politique négocié pour un gouvernement d'union nationale. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, le secteur des transports est miné par la corruption. C'est ce que révèlent les résultats de l'indice de perception de la corruption publié par la CONAC, la Commission nationale anticorruption. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
La corruption au Cameroun dans les transports se trouve à tous les niveaux.
Patrice Samen est le président du syndicat national des conducteurs de transport urbain, interurbain et routier du Cameroun. Syndicaliste depuis une quinzaine d'années, Patrice Samen se dit indigné de voir à ciel ouvert la corruption dans le secteur des transports au Cameroun.
Les autorités qui délivrent les titres de transport, c'est un banditisme à ciel ouvert où vous allez payer une licence de transport, on vous donne un dépôt, vous roulez avec deux ans, tout ça, l'argent entre dans la poche des individus.
Collins de Fosoken est lui aussi syndicaliste. Il a été aux avant-postes lors de deux importantes grèves des conducteurs de taxi au Cameroun contre les tracasseries policières.
La plupart des gens de voyage n'ont pas d'agrément. Comment les gens de voyage peuvent ne pas avoir d'agrément et avoir pignon sur eux, si ce n'est la corruption qui est à l'origine de leur création?
Herman a passé l'an dernier l'examen de permis de conduire à Yaoundé. Il dit avoir fait face à la corruption.
Quand il fallait aller faire la pratique, on m'avait d'abord présenté à un monsieur qui allait me coacher et à qui il fallait remettre une somme de 10 000 francs. Les listes sont sorties, mon nom n'est pas sorti. Quelqu'un se présente pour me dire que si mon permis, j'en ai besoin, que je lui donne une somme de 30 000 francs. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui.
Les usagers des administrations de transport se plaignent aussi de la corruption dans la délivrance des titres de transport, notamment à la délégation départementale des transports à Yaoundé. Georges témoigne sur ce qu'il a vécu en ces lieux.
Il y a eu une erreur sur mon prénom au niveau de ma carte grise. Et lorsque je m'en vais pour que l'on rectifie cela, la dame qui me reçoit ce jour me dit que monsieur, ça peut être rectifié, mais pour que cela soit fait, il faudra me donner 10 000 francs. Ou alors vous rentrez avec vos documents, vous roulez avec ça comme ça.
Après moult dénonciations, un ancien responsable de cette administration a été relevé de ses fonctions pour des faits de corruption avérés. Mais le mal y perdure, selon Alfred Etom, coordonnateur de la stratégie de lutte contre la corruption à la Commission nationale anticorruption.
Vous trouvez des gens qui n'appartiennent pas à cette administration et qui se proposent de vous rendre service. Et le plus curieux, c'est que quand vous vous adressez directement à l'administration, le service que vous sollicitez, on va vous le rendre un mois après. Alors qu'avec ces intermédiaires-là, les mêmes responsables vous rendent le service deux ou trois jours après. C'est un phénomène que nous continuons de combattre. Je peux vous assurer que beaucoup aujourd'hui copient en prison.
En 2017, l'indice de perception de la corruption dans ce département ministériel a connu une légère baisse, passant de 6,84 points en 2010 à 6,34 sur 10. De quoi accentuer encore le travail de la Commission nationale anticorruption. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour ce matin sur la manifestation de samedi à Ouagadougou, à l'appel du collectif contre l'impunité né des récentes tueries de Yirgou dans le centre nord du Burkina Faso. Des milliers de manifestants ont marché pour demander l'arrêt de la stigmatisation des communautés et réclamer justice pour les quelques 50 peuls tués le jour de l'an par des membres d'une milice d'autodéfense locale. Compte rendu de notre correspondant à Yaoundé, Issa Napon.
Ils étaient plusieurs milliers de Burkinabés à battre le pavé pour cette marche silencieuse contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Sur leurs pancartes, des appels à la justice, mais aussi à renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Et une procession pour dire plus jamais de violence visant une communauté ou un groupe ethnique.
C'est triste ce qui est arrivé à Yirgou. Nous sommes dans l'état des droits. Nous sommes tous des Burkinabés. Aucune ethnie au-dessus de l'autre. On dit toujours plus jamais ça.
Est-ce que vous comprendrez à quel point nous sommes motivés et nous voulons la justice?
L'impunité.
Il n'est pas normal que les choses se passent comme on le constate, souffle l'avocat du collectif, Maître Ambroise Farama.
Il y a eu un massacre à Yirgou et jusqu'à ce jour, aucun commanditaire, aucun coupable n'a été arrêté. Et donc nous sommes inquiets que justice ne soit pas rendue à ces victimes-là. C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons afin que justice soit rendue. Donc nous voulons condamner toutes les formes d'impunité, nous voulons condamner toutes les formes d'injustice et en même temps aussi nous voulons appeler donc le peuple burkinabé à se réveiller et à mettre fin à toutes les formes de stigmatisation afin que nous puissions préserver de la sérénité sociale.
L'expression « plus jamais ça » fusait de temps en temps de la procession silencieuse composée d'une diversité ethnique et religieuse tendant à montrer la solidité de la cohésion sociale. Le représentant de la communauté Bobo, ethnie de l'ouest du pays à Ouagadougou, Yacouba Sano.
Ce qui est arrivé au peuple n'est pas arrivé au peuple seulement. C'est arrivé à tous les Burkinabés et à toutes les ethnies du Burkina Faso. Plus jamais ça. Comme le gouvernement a promis que la justice serait faite. Les gens n'ont qu'à laisser le gouvernement faire son travail et la justice aussi va faire son travail et les cœurs seront apaisés.
Au cours du meeting qui a bouclé la marche à la place de la Nation, plusieurs messages des leaders de tous bords ont appelé à la mobilisation pour barrer la route à la désunion que visent les terroristes et au resserrement des liens qui unissent les communautés burkinabées. Mais surtout, les marcheurs ne veulent pas d'impunité, a souligné le porte-parole du collectif, Dr Daouda Diallo.
Si vous avez écouté les différents messages, il est ressorti clairement qu'aucun criminel n'a été inquiété jusqu'à présent. Cette marche, le meeting, a visé l'objectif de mettre ensemble tous les citoyens, les enfants du pays, pour démontrer qu'on est déterminé, pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de distinction ethnique. On est déterminé pour que la vérité puisse voir le jour et que justice soit rendue et que les criminels soient punis à la hauteur de leurs forfaits.
Selon le collectif, plus de 70 personnes ont été tuées à Yirgu. Le gouvernement, lui, parle de 49 victimes. À l'origine de cette tuerie, le meurtre du chef de village et de quelques membres de sa famille par des hommes armés non identifiés que les villageois estiment avoir été protégés par les habitants peuls du village. C'est l'étincelle qui a déclenché les représailles des groupes d'autodéfense Kogulwego du village et le collectif d'attirer l'attention du gouvernement sur l'exigence de vérité et de justice. Issa Napo Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Guinée, les propos de l'ambassadeur russe à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au président Alpha Condé font l'objet d'une controverse. Le diplomate accrédité à Conakry a semblé suggérer une modification de la Constitution qui ouvrirait la voie en troisième mandat pour M. Condé, dont le deuxième et dernier mandat, selon la Constitution guinéenne, doit s'achever en 2020. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Le discours d'Alexandre Bekatié au palais Sirtureya a provoqué un tollé quand le doyen des diplomates dit au président Condé que les constitutions ne sont ni dogme, ni bible, ni coran, quand il insiste en ajoutant que les constitutions s'adaptent à la réalité, mais les réalités ne s'adaptent pas aux constitutions, ses propos passent mal auprès des politiques. L'opposant et ancien premier ministre Sidia Touré rappelle le diplomate russe au respect de la loi guinéenne.
J'estime que chacun doit rester dans son rôle. Les ambassadeurs peuvent avoir une perception de principe sur la situation en Guinée. D'autres l'ont fait. Je n'interdis pas ce que la Russie dise qu'ils veulent, qu'ils pensent que la Guinée doit prendre un chemin différent, mais nous avons des textes fondamentaux ici. J'estime que le minimum pour un ambassadeur, c'est de respecter les textes fondamentaux qui constituent la base de la démocratie en République de Guinée. Dans ce texte-là, les choses sont claires. Donc j'estime qu'il n'y a pas le rôle d'un ambassadeur de venir nous faire la leçon sur cela.
Le diplomate russe avait-il l'intention de faire la leçon aux Guinéens? Une chose est sûre, Alexandre Bregadze a dit tout son soutien au président Condé. Nous vous soutenons, monsieur le président, la Guinée a besoin de vous, déclare-t-il. Des mots, des phrases qui ont fait écho jusque dans les rues de la capitale.
Ce qu'il a fait, c'est trop gauche. Parce qu'un ambassadeur d'un autre pays ne peut pas se mêler dans une affaire politique d'un autre pays, surtout comme la Guinée. Dans la démocratie, cela n'est pas exigé que le président doit changer de la constitution pour se faire plaisir d'avoir un troisième mandat.
Il faut juste rappeler à l'ambassadeur de la Russie que la Russie n'est pas la Guinée. Nos constitutions ne sont pas les mêmes. Et vouloir dire que le président peut changer la constitution en sa faveur n'est pas démocrate. La Guinée, c'est un pays démocratique qui respecte sa constitution.
Le diplomate russe a conclu son discours par un dicton russe. On ne change pas les chevaux au passage du cours d'une rivière. Et Alexandre Bregadze de faire remarquer que la Guinée est actuellement à ce passage. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Ael Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.